RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir.
Et ensemble, nous recevons Gaspard Ganzer, ancien conseiller de François Hollande et candidat à la mairie de Paris, auteur de « Nous autres Parisiens » aux éditions Fayard. Merci d'être avec
merci
nous,
vous.
D'avoir accepté notre invitation. Avant de parler de Paris, bien évidemment, on va parler de l'actualité. Et hier, le président s'est invité devant les parlementaires. Il a évoqué l'immigration, un sujet qu'il faut, dit-il, regarder en face. A-t-il raison sur le sujet de ne pas le laisser préempter par le Rassemblement national ? Est-ce que c'est un sujet qu'il faut, comme il le dit, regarder en face?
J'ai trouvé que c'était un peu une formule toute faite qu'on avait déjà beaucoup entendue dans les années 80-90 dans la bouche soit du Front National, soit de la droite républicaine. Mais au-delà de la communication, il a raison de mettre ce sujet sur la table, parce que c'est un sujet. C'est un sujet européen, la gestion des migrations internationales, et on pense à toutes ces personnes qui sont mortes dans la Méditerranée au cours des derniers mois. Puis c'est un sujet national qui est pour moi moins le sujet de l'immigration que le sujet de l'intégration, parce que c'est ma vision de la société. Évidemment, il faut regarder au cas par cas ceux qui sont des demandeurs d'asile, ceux qui viennent au titre de regroupement familial, mais la question, c'est pas pour ou contre l'immigration, c'est un débat qui n'a aucun sens. C'est l'immigration, elle est aujourd'hui réglementée par le droit d'asile pour ceux qui sont en situation, ou par le regroupement familial, quelquefois par l'immigration économique. Comment est-ce qu'on fait pour que ces gens se sentent bien dans le creuset français? C'est ça qu'il nous faut travailler.
Quand il parle de ce sujet, quand il a cette formule, au fond, il ne parle pas tant des migrants qui arrivent depuis quelques années que d'un certain nombre de personnes qui sont là, parfois depuis assez longtemps, mais qui sont en déficit d'intégration. C'est ce qu'il veut dire quand il dit, par exemple, la question est de savoir si nous voulons être un parti bourgeois ou pas. Les bourgeois n'ont pas de problème avec cela, ils ne les croisent pas. Où ils ne la croisent pas, en parlant de l'immigration. Les classes populaires vivent avec. Comment vous comprenez ce propos ?
J'aime pas ce type de formulation, cette nomination indéfinie qui désigne des gens qui sont pour la plupart d'entre eux français, parce que certains sont nés en France, d'autres ont été naturalisés. J'aime pas ces propos globalisants, derrière quoi l'étranger, il y aurait la peur de l'autre. Moi j'aime la diversité qui a fondé notre pays, qui la fonde encore aujourd'hui. Il y a des gens qui sont aujourd'hui depuis une, deux, trois générations dans notre pays et qui font la richesse de notre pays, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur religion. Et moi j'attendrai du président de la République un discours plus positif.
Mais il a mis la gauche en cause dans son discours hier, en disant la gauche qu'il n'a pas voulu voir.
Je trouve que c'est pas un sujet qui mérite la polémique, mais au contraire du rassemblement et de la joie. Moi, j'attends d'un président de la République qu'il parle des bienfaits de l'immigration, qu'il parle de la richesse de l'immigration, de la force de notre diversité. On ne sera peut-être pas d'accord, vous et moi, ou Emmanuel Macron et moi, même si
non, mais ce qu'il voulait dire, c'est que les peurs, dans le fond, les peurs identitaires, elle crée ce qu'on vit aujourd'hui dans beaucoup de pays, que ce soit aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe aussi, le populisme, la montée des populismes. Est-ce que c'est pas une manière de prévenir aussi que d'aller sur un terrain qui, je vous le disais, est préempté par des partis d'extrême droite, de s'en saisir aussi, mais avec de l'humanité, avec du bon sens, on va dire.
Je connais bien ce débat, parce que Nicolas Sarkozy avait les mêmes propos quand il avait lancé le débat
absolument
sur l'identité nationale à Grenoble.
Ça
lui a pas porté chance. Le gouvernement de François Hollande et de Manuel Valls s'est parfois égaré sur ce terrain, et je l'ai beaucoup regretté, notamment avec la question de l'extension de la déchéance de nationalité. Je crois que quand on va sur le terrain de l'adversaire de l'extrême droite, on perd toujours. Je pense au contraire qu'il faut lever la garde, défendre nos valeurs, la laïcité, bien évidemment, qui est cardinale, mais aussi la force de la diversité. Donc moi, je me battrai chaque jour pour qu'on ne désigne pas du doigt telle ou telle personne parce qu'il n'aurait pas un prénom ou un nom qui sonnerait français. Tout, on peut s'appeler Mohamed, Hakim, Youssouf et être totalement français, et c'est très bien.
On va parler des retraites avant de parler de Paris, assez court, mais on va vous demander votre avis, parce que donc la semaine dernière, vendredi, les métros parisiens étaient en grève. Lundi, donc hier, les professions libérales, comme les avocats, ont manifesté. Alors cette réforme des retraites, on ne sait pas encore ce qu'il y a dedans, puisqu'il y a une base de travail qui est le rapport de le voir, mais il y a des négociations, il y a des concertations, donc on ne sait pas ce que ça va donner. Est-ce que vous avez le sentiment que ces professions libérales ont raison de s'inquiéter, ou elles crient avant d'avoir mal ?
Ah non, je pense qu'elles ont totalement raison, parce qu'il y a eu des premiers pré-projets qui sont sortis, des indiscrétions, et on voit que l'idée c'est de remettre en cause les conditions de travail très particulières et donc de prise en compte de la retraite des avocats en augmentant drastiquement leur taux de cotisation et en gommant leur aspect indépendant et profession libérale. Vous savez, les avocats, c'est plutôt des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron aux dernières élections. Ils étaient plus de 2/3 à manifester hier à Paris et partout en France. S'ils le font, c'est pas par hasard. C'est pas des gens qui manifestent facilement. S'ils le font, c'est parce qu'ils se rendent compte qu'on veut remettre en cause la spécificité de l'organisation de travail. C'est pas des salariés comme les autres. Les avocats, c'est d'ailleurs pas des salariés, sauf qu'à quelques exceptions, c'est des gens indépendants qui ont une condition de travail particulière. Voilà.
Il faudrait limiter la réforme aux salariés, justement, et exclure les professions libérales. C'est vrai que, par exemple, les avocats, mais d'autres professions aussi, comme les médecins, ont des systèmes de retraite autonomes qui fonctionnent très bien, qui sont totalement excédentaires et qui ont parfois même des milliards d'euros de réserve.
Alors, vous savez, les médecins libéraux, les ostéopathes, les kinésithérapeutes, les notaires, c'est pas des gens qui ont des grosses retraites. Ils cotisent beaucoup dans leur vie, ils n'ont pas des grosses retraites.
Mais par exemple, il y a 2 milliards d'euros de réserve dans la caisse de retraite des avocats.
Oui, je pense que l'État veut mettre l'argent sur le grisby, mais bon, c'est les gens qui ont cotisé, vous savez, les cotisations.
Pas toucher au grisby.
Non, il faut pas toucher au grisby. Macron adore au diard, donc il devrait savoir qu'il faut pas toucher au grisby des avocats. Et non, c'est les gens qui ont cotisé. Ouais. Et c'est pas de l'argent qui a poussé dans les arbres. Ils ont travaillé pour cotiser, donc on essaie de leur piquer leur argent.
Alors, on va parler de Paris. Il y a eu un sondage ce week-end dans le JDD. Vous l'avez bien sûr regardé avec attention.
Ah non, c'est bien sûr.
Donc, vous avez créé votre mouvement parisien. Vous avez 2500 adhérents. C'est pas mal. Alors, vous êtes parti de rien.
De zéro, il faut le dire.
De zéro. Alors, on va pas dire la suite de Pierre Dac pour agréver à pas grand chose. Mais en tout cas,
on a beaucoup de références de bon niveau là ce matin.
On est bon là. Mais vous êtes crédité de 1%, Gaspard Ganzer. Est-ce que vous n'êtes pas découragé ou vous dites j'y vais quand même. L'important c'est de participer.
Non, l'important c'est pas de participer, l'important c'est de gagner. Si je le fais, c'est pour gagner avec Isabelle Saporta qui m'a rejoint, avec les 2500 membres de Parisiennes Parisiens.
De 1%, vous pensez que vous pouvez atteindre les 24% de Dan Hidalgo qui est en tête?
Mais bien sûr, parce que c'est une campagne qui se mène sur le terrain, qui n'a pas véritablement commencé, même si nous on s'est lancé depuis 2 ans pour développer nos idées, on en a mis beaucoup, c'est pour ça que dans ce livre, j'ai une 50aine d'idées, elle est nourrie par des 100aines de réunions que j'ai pu avoir avec les Parisiennes et les Parisiens. Mais vous savez, moi je me bats pas pour aller au secours de la victoire. Je ne me bats pas pour un poste, je me bats pour une cause plus noble que toutes les causes, c'est l'avenir des Parisiennes et des Parisiens, leur sécurité, leur propreté, la construction du Grand Paris, l'écologie. Donc, vous savez, j'ai aucun état d'âme et j'ai une énergie illimitée parce que je ne me bats pas pour ma petite personne, je me bats pour les autres.
On le sait que vous avez on vous connaît.
Frédéric. Vous êtes soutenu par, vous l'avez nommé par Isabelle Saporta, qui est une journaliste très engagée dans les questions environnementales. Et qui est aussi accessoirement la compagne de Yannick Jadot. Est-ce que, même si vous dites que vous irez au bout, est-ce que vous n'êtes pas tout de même une sorte de force d'appoint des écologistes et que vous n'allez pas rejoindre David Belliard, le candidat des écolos, après le premier tour?
Vous savez, quand on se lance dans une compétition, notamment une compétition difficile, et celle-ci est difficile, elle nécessite beaucoup d'humilité, d'abnégation, d'énergie, de force et de courage, j'en ai le maximum. Eh bien, on ne se lance pas pour figurer à la deuxième ou troisième place. Moi, les places d'honneur ne m'intéressent pas. La seule place qui m'intéresse, c'est la première. Mais pas pour moi, pour les autres, parce que je veux construire le Grand Paris, faire de l'écologie, agir pour la propreté et la sécurité. Après, au soir du premier tour, il faudra rassembler. Moi, j'espère que nous serons en situation de rassembler autour de nous. Mais peut-être que ça ne sera pas le cas. Et à ce moment-là, on fera le point. Mais je ne me projette pas en me disant je vais arriver deuxième, troisième, quatrième. Le côté combination et Paris sportif, vous avez le droit de poser cette question, bien évidemment. Mais moi, je ne me projette pas là-dedans. J'y vais pour gagner. Vous savez, je suis marathonien. La course, elle commence au premier, elle termine au 42e et elle se décide pas au 20e ou au 30e kilomètre. Elle se décide dans les derniers hectomètres. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on voit ceux qui sont les plus résistants.
Alors, vous allez gagner, mais expliquez-moi pourquoi vous allez gagner. Qu'est-ce que vous avez de mieux qu'Anne Hidalgo? Qu'est-ce que vous avez de mieux que Griveaux? Qu'est-ce que vous avez de mieux que Cédric Villani? Qu'est-ce que vous avez de mieux que Rachida Dati, bon, qui est en 4e position? Expliquez-nous ce qui vous différencie des autres.
Alors déjà, je pense qu'il y a notre énergie et notre force de travail, mais ça, on l'a compris. De la deuxième chose, on s'est enraciné dans le territoire, on a mis en place des gens dans chaque quartier, quasiment dans chaque immeuble, qui écoutent les Parisiens, dialoguent avec eux, on a plus travaillé avec les autres, et puis surtout, on a un projet. C'est ce que j'ai écrit dans le texte
dans ce livre,
Nous autres Parisiens. On a des propositions pour la sécurité qui est un fléau dans les quartiers populaires de Paris, des propositions pour la propreté, pour le logement, qui est le principal problème des Parisiens. Les autres, vous savez, ils n'ont pas fait de propositions. propositions. Anne Hidalgo, elle a un bilan à défendre. Elle fera peut-être de propositions.
Pourquoi ce bilan ?
Moi, je trouve que ce bilan est mauvais, notamment sur les fondamentaux de l'action de la maire de Paris. Je pense qu'en matière de logement, de sécurité, de propreté et de transport public, elle n'est pas à hauteur. Mais les autres n'ont pas fait de proposition. Moi, je suis fasciné, pour vous dire la vérité, je pourrais en rire, mais j'ai surtout envie d'en pleurer, de voir des gens qui se présentent au suffrage universel des Parisiens et qui n'ont pas le début d'une idée ou d'un programme. D'un côté, il y a Benjamin Griveaux qui, quand on l'interroge sur l'éducation, dit que la priorité, c'est de faire des cours d'anglais pour les enfants de 3 ans. Et de l'autre côté, il y a Cédric Villani. Quand on l'interroge sur la question du logement, qui est la question la plus fondamentale pour les Parisiens, parce que les prix d'immobilier ont explosé, il se retourne vers ses collaborateurs.
Les Parisiens fuient.
Bien sûr, ils partent parce qu'ils sont expulsés de Paris. Eh bien, il n'a aucune réponse. Nous, on a travaillé. On a travaillé et on va travailler encore parce que c'est ça qui fera la différence. Alors après, au bout du compte, peut-être qu'on n'arrivera pas à convaincre, mais je peux vous dire qu'on va tout faire pour.
Quelle est votre idée force, Caspar Ganser ? Celle qui, a priori, peut donner le plus envie de vous rejoindre ?
Moi, j'en ai deux qui sont très importantes. Bon, première, c'est la construction du Grand Paris, parce que je pense que Paris est une ville.
Mais ça, c'est un peu.
Non. Mais attends, laissez-moi terminer. C'est pas abstrait. Paris est une ville trop petite. Elle étouffe sur elle-même. C'est pour ça que les prix de l'immobilier sont chers, et c'est pour ça qu'elle est embouteillée, et c'est pour ça qu'elle est trop dense et trop chaude, comme on l'a vu cet été. Londres, Berlin, Madrid, Rome sont beaucoup plus larges. Donc moi, je veux faire tomber les murs, faire tomber le périphérique, et nous réconcilier avec la banlieue au lieu d'avoir cette opposition. Ça, c'est une frontière, une nouvelle frontière, comme disait
Kennedy. Si vous décrétez qu'Aubervilliers, c'est dans Paris, dans l'esprit des gens qui y habitent, ça sera toujours Aubervilliers.
Eh bien, détrompez-vous. Il y a un siècle et demi, quand on allait à Auteuil, quand on allait au Petit Montrouge, ou quand on allait dans le 20e arrondissement, boulevard d'Avoux, on n'était pas dans Paris, dans la banlieue. C'était même la campagne. Eh bien, aujourd'hui, c'est Paris et on s'est réunis. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, plus urgente encore, c'est la réappropriation de l'espace public. Ça, pour moi, c'est vraiment la clé. Aujourd'hui, à Paris, il y a des zones de non-droit. Et moi, je veux remettre de l'ordre et remettre de l'autorité dans certains quartiers de Paris.
Vous parlez quoi, de délinquance, de trafic de drogue ?
Je parle de délinquance, de trafic de drogue, de ricks entre bandes. Il y a des quartiers, je vais les nommer.
Dans des quartiers très calmes, parfois, aujourd'hui.
Place de la Chapelle dans le 18e, Riquet dans le 19e, Ballard dans le 15e arrondissement, Porte de Vanves, la limite entre le 14e et le 15e arrondissement. Aujourd'hui, il y a des zones de non-droit dans cette ville et il faut rétablir l'ordre.
Et ça, la ville de Paris peut avoir les moyens de le faire ?
Bien sûr. Avec la police nationale. Elle doit déjà avoir créé une police municipale.
Armée ?
Bien sûr.
Vous pensez qu'elle soit armée ?
Bien sûr. Vous savez, Clarissa Jean-Philippe, qui était une jeune policière à Montrouge, elle était policière municipale, elle s'est fait tirer dessus. Parce que les policiers municipaux, comme les policiers nationaux, peuvent être des cibles. Donc si on les envoie dans des zones dangereuses, par exemple, comme des endroits où il y a du trafic de drogue massif, ou des rixes entre bandes, ou des réseaux de trafic en tout genre, d'êtres humains notamment, eh bien il faut qu'ils puissent se défendre. Et donc, il faut avoir cette action résolue. Moi, vous savez, j'ai un modèle comme maire de Paris, c'est Bertrand Delaunay, parce qu'il avait sa sens du détail. Mais si on se regarde...
Vous avez travaillé avec lui.
Oui, j'ai travaillé avec lui plusieurs années, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour lui. Si je regarde à l'étranger, il y a un autre maire qui a su faire preuve d'autorité pour rétablir l'ordre. C'est Rudolph Giuliani à New York. Je peux vous dire que quand il est arrivé au pouvoir... Mais il faut être implacable. C'est la tolérance zéro pour les gens qui font des rodéos à scooter, qui vendent de la drogue à ciel ouvert, qui agressent les femmes dans la rue. Moi, j'ai plein d'amis de tous les âges qui, quand elles se baladent dans la rue dans certains quartiers, me disent « Bah voilà, j'ose plus sortir de chez moi, je n'arrive pas à rentrer ce soir à telle ou telle heure. Moi, ma fille, elle est encore enfant, mais j'ai pas envie d'avoir peur pour elle quand elle aura 14 ans parce qu'elle pourra pas aller dans tel ou tel quartier parce qu'elle aura peur de se faire agresser. » Donc, il faut reprendre le contrôle de l'espace public. C'est difficile, mais il faut le dire. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Il faut savoir parler vrai sur ces sujets.
Gaspard Ganser, vous roulez toujours à scooter à Paris ?
Alors, j'oscille entre trois modes de déplacement. Quand j'ai des grands déplacements, je fais du scooter électrique. C'est une sacrée galère d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas assez de bornes. Je fais beaucoup de transports en commun avec mes enfants. C'est aussi une belle galère, parce que on va dire que ça ne fonctionne pas très bien, mais c'est quand même le plus agréable et le moins cher et le plus pratique. Et puis du vélo, quand j'ai des trajets plus courts à faire.
Alors justement, est-ce que vous critiquez l'approche punitive d'Anne Hidalgo sur l'écologie ? Alors effectivement, elle a embêté les automobilistes. C'est vrai que rouler à Paris, c'est devenu infernal. Mais est-ce que a-t-elle suffisamment développé une alternative à la voiture ? Est-ce que son affaire est pensée ?
Je pense qu'il faut évidemment que la voiture réduise sa place à Paris, c'est une évidence, mais c'était pas la bonne manière de le faire.
Il
fallait éviter de planter Autolib comme elle l'a fait, qui est un mode de partage de voitures électriques très pratique et très efficace. Il fallait éviter de planter Vélib, parce qu'aujourd'hui c'est quasiment devenu impossible de prendre un Vélib, et surtout il fallait investir massivement pour les transports publics. La ville de Paris a les moyens de le faire, parce qu'elle le fait avec la région. C'est le deuxième contributeur, plusieurs centaines de millions par an.
Oui, mais elle ne veut pas dépenser beaucoup d'argent, parce qu'elle ne veut pas augmenter les impôts.
Non, mais elle a de l'argent déjà, elle lui donne de l'argent, donc elle peut faire pression sur la région Île-de-France, le STIF, la RATP, la SNCF, pour améliorer les choses. Je voyais il y a quelques jours, ou quelques heures plus exactement, qu'elle se plaignait, la maire de Paris, que le métro soit trop pollué. Mais j'ai envie de lui dire, Anne Hidalgo, vous avez siégé au conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité pendant de très nombreuses années. Aujourd'hui, vos adjoints Missika, Najdowski et Grégoire, ils y sont, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent et ils écoutent et ils ne disent rien. C'est l'argent des Parisiens qui est investi dans le métro. Donc il faut plus de rames, plus de sécurité. Il faut des métros la nuit. Là, j'ai vu que Valérie Pécresse a une très bonne idée, parce qu'elle expérimente une fois par semaine, une fois par mois, plus exactement, un jour de la semaine, le métro la nuit comme à New York. Et ça, il faut le développer très massivement. Je le dis d'ailleurs dans le livre, il faut que ça soit d'abord tous les week-ends et peut-être un peu plus large, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de rentrer tard le soir, parce qu'ils travaillent tard.
Donc, en fait, vous êtes un peu le monsieur sécurité de cette campagne municipale. C'est ça votre axe. Quand vous dites se réapproprier l'espace, c'est rétablir la sécurité.
Moi, j'ai trois piliers. La sécurité, parce qu'il faut reprendre le contrôle de l'espace public, le Grand Paris, et troisièmement, l'écologie. L'écologie positive, l'écologie joyeuse, l'alimentation, les espaces verts. Mais j'ai pas envie de me faire enfermer dans telle case. Par contre, j'assume l'idée que la sécurité sera une vraie priorité, parce qu'il y a des quartiers vraiment où les habitants disent ça suffit.
Mais là où j'ai pas entendu...
Je suis peut-être allé un peu vite.
Oui, non, sur la circulation, ce que vous proposez justement à ces alternatives.
Ah pardon, non, j'étais juste dans le bilan.
Aujourd'hui, il faut trouver une voiture électrique à louer à Paris, enfin comme il y avait Autolib. Aller remettre de l'électricité dans une voiture, dans un parking. Il y a trois places.
Donc, il n'y a pas assez de bandes de charge. Donc, il en faut beaucoup plus. Un. Deux, il faut continuer à développer le vélo. Parce que moi, je suis favorable au développement du vélo.
Oui, mais tout le monde ne fait pas du vélo. Ouais.
Exactement. Et vous me piquez ma transition et vous avez raison. Moi, ma mère, qui va avoir 70 ans, elle peut pas faire de vélo. Tout comme ma tante, qui a plus de 70 ans, ne peut pas faire du vélo. Donc, il faut du bus et il faut du métro. Donc, il faut que ces bus et ces métros soient efficaces, puissent circuler librement dans Paris. Et donc, il faut investir avec la région Île-de-France pour qu'il y ait plus de bus sur des horaires plus étalés et en meilleur état.
Et sur les trucs électriques, sur les
bandes de recharge, il y en a pas assez, hein, aujourd'hui. Il y a des bandes qui s'appellent Bélib, je crois. Regardez, j'ai ma carte Bélib, je fais de la pub parce que c'est un service public, mais c'est très pratique. C'est gratuit la nuit d'ailleurs, hein, quand vous rechargez la nuit, c'est gratuit. Oui. Mais malheureusement, il n'y en a pas assez dans Paris, il y en a quelques centaines. Il en faudrait certainement 10 fois plus pour les scooters comme pour les voitures. Parce que j'entends dire certains qui disent que c'est de l'électrique, c'est polluant parce que c'est nucléaire. Écoutez, c'est déjà beaucoup mieux que le diesel ou l'essence.
Ben voilà, on est arrivé au terme de cette émission. Merci.
Ça va vite.
Oui, merci. Merci, Gaspard Ganzer. Donc, nous autres Parisiens aux éditions Fayard, donc votre livre qui est votre programme sur ce que vous voulez faire. De Paris, merci à vous.
Merci beaucoup à vous.
Bienvenue sur France 24 RFI. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.